Premièrement, je vous remercie de cette invitation. Je remercie évidemment le musée aussi de son accueil et puis à vous tous de votre présence. Alors, je vais commencer juste pour deux mots sur le petit livre, le beau livre de Chris Mirror, simplement pour dire que c'est pas tellement une bande dessinée que un carnet de voyage qu'il a fait, un séjour qu'il a fait au Sainte il y a quelques années. Et dedans, vous verrez les portraits pour ceux qui sont habitués du pèlerinage, d'un certain nombre d'hommes et de femmes que l'on croise encore, ou de certains comme Bébé Lafleur qui ne sont plus parmi nous. Et donc là-dessus, ce livre a été une première fois édité d'une manière assez sale. Donc il a souhaité compléter l'ouvrage par le témoignage d'un instituteur qui travaille auprès de gens du voyage nomades et donc qui les a accompagnés au sein de Marie de la Mer. Et puis il m'a demandé de faire une série de petits textes sur à la fois la Camargue, les Saintes, mais les Gitans, les discriminations, etc., et les histoires. Donc c'est pour ça que c'était pour moi intéressant de participer à ça, dans la mesure où c'est comme exactement ce petit bouquin, une manière d'essayer de toucher un public différent. C'est-à-dire que le propre de la collection, les idées reçues, quand il a été question de faire ce livre, bah, ce livre c'est comme c'est une collection qui a le même format que les que sais-je, les 128 pages, et à Montpellier on se souvient de ce que c'est qu'un que sais-je sur les tziganes, je ne parlerai pas, ça sera pas le sujet, mais là l'intérêt c'est que on n'essaye pas de tout dire en 128 pages, mais de plutôt justement reprendre les idées reçues, c'est-à-dire et je voulais juste quelques thèmes, vous le verrez puisque le bouquin est là, mais c'est partir de dire les gitans viennent de l'Inde, les gitans sont nomades, les gitans n'aiment pas travailler, les gitans sont sales, sont voleurs, les gitans aiment leurs enfants et leurs vieux, les gitans savent lire les lignes de la main, les gitans ont roi et une reine. Bon, bah, c'est des fois un petit défi d'écrire en 4 ou 5 pages quelque chose qui essaie d'être cohérent sur des sujets comme ça, mais en même temps ça n'a pas la prétention de répondre à tout, c'était tout l'intérêt de cet exercice. Et je dois dire que la projection des photos d'Olivia Moura est une très belle introduction à un débat, parce que c'est plutôt un débat que je souhaite faire, une sorte de conférence, hein, c'est que, on est en Camargue, en terre provençale, catholique, avec des protestants quand même dans le coin, puis là-dedans, parce qu'on sait tout, on sait qu'au sein de Marie de la Mer venaient quand même toujours des protestants, même au temps du pèlerinage simplement de Marie-Jacobée et Marie-Salomé, avant que Sarah n'apparaisse. Et puis, maintenant, il y a des pentecôtistes, alors j'ai gitan, bon, hein. Et puis là, on se retrouve avec des Roms musulmans du Monténégro. Donc déjà, on parle de Roms, on ne parle plus de gitans. Alors, qu'est-ce que c'est que les tziganes au milieu ? On parle de musulmans. Bon, d'ailleurs, est-ce que c'est des sunnites ? Probablement, mais il peut y avoir aussi des musulmans soufis. Donc on est, et puis il y a quand même une grande proportion de tziganes orthodoxes, donc on est quand même devant déjà de la complexité. Les gars, l'identité religieuse elle n'est pas assignable comme ça. Pourtant quand on voit les photos d'Olivia, on n'a pas de doute. Bon, déjà, ils sont peut-être pas nomades, parce qu'il y a quand même des cabanes en bois, etc. Donc on peut se poser des questions. Mais bon, c'est quand même des cabanes. Bon, on pourrait avoir des reportages sur les quartiers d'Istanbul ou les quartiers de France, évidemment, où c'est des immeubles. D'autres endroits, c'est des caravanes. D'autres endroits, c'est des mélanges. Donc là aussi, sédentaire, semi-sédentaire, nomade, c'est des catégories qui sont des catégories administratives, ça je pourrais y revenir, mais donc dans des dimensions multiples, des dénominations, alors Rome, Gitan, Tzigane, puis certains qui vont se dire « Ah ben non, nous on n'est pas Gitan, nous on est des vrais Gitans, on est des Calais. Mais eux c'est des Gashkalimans, et puis eux c'est des Parishkés Roma, c'est pas les mêmes que les Slovensko Roma ou les Rurangais. Bon, chaque groupe va se renommer. Alors déjà l'ethnologue peut commencer à se casser la tête, puis alors l'ethnologue qui doit parler à tout le monde faites un livre sur les Tziganes, les Gitans, les gens du voyage. Ah, comment les appeler, quel titre vous donner. Alors, si vous mettez les Tziganes, en général, les éditeurs veulent toujours qu'on marque les Tziganes. Parce qu'au moins, en France, ça passe, ça marche. On sait qu'il y a un minimum d'acheteurs pour ça. Mais bon, ça ne correspond pas non plus. Il y a une part de gens du voyage, comme on dit, qui ne se reconnaissent pas comme Tziganes. Il y a des gens qui vont se dire voyageurs, mais qui vivent en maison. Donc chaque fois qu'on est devant les réalités concrètes du terrain, de gens qu'on rencontre, de certains qui sont présents ici, si on veut rentrer dans la catégorie administrative, ça colle pas. Si on veut rentrer dans la catégorie religieuse, ça colle pas. À me dire la famille untel, de toute façon, c'est les catholiques. Attends, ils sont catholiques, mais la belle-fille, elle s'est mariée. Avec un chrétien, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un du mouvement pentecôtiste. Et puis, dans le mouvement pentecôtiste, mais il ne fait plus partie de la mission évangélique tzigane parce qu'il a fait partie d'une scission. Chaque fois, pop, les réalités se dissolvent. Et pourtant, la réalité humaine, la présence concrète, identifiable, comme dans les photos d'Olivia, cette présence permanente des Chaves, des enfants, ce rapport de la mère avec l'enfant au sein, on a l'impression de revoir de l'iconographie ancienne, de la photo ancienne. On a l'impression de stéréotypes comme ça, en quelque sorte, qui continuent et qui rendent compte d'une réalité. D'effectivement, de gens, comme t'es dit tout à l'heure, qui sont présents dans le monde. Alors, dans notre monde. Oui, bon, dans notre monde, dans le monde de ceux qu'ils appellent les gadjés, les payos, etc. C'est-à-dire le monde de ceux qui ne sont pas tziganes. Mais ils sont présents, effectivement. Moi, j'aime bien l'expression, toujours, je l'ai mis dans le livre une fois, même je crois deux, d'un homme, d'un manouche de Pau, qui disait à un ami, à Jean-Luc, « Nous, on est arriérés. » Alors Jean-Luc, comme ça fait 20 ans qu'il fréquente Mensch et le monde des Manouches, évidemment il sait qu'il ne faut pas poser de questions. Et un ethnologue qui travaille chez les Tziganes, il sait qu'il n'a pas intérêt à poser de questions, que les réponses arriveront quand on voudra lui les donner. Quelques temps plus tard, cet homme lui dit « Je ne suis pas sûr que tu aies compris ce que j'ai dit l'autre jour ». J'ai peut-être pas compris. Quand j'ai dit qu'on était arriéré, ça veut dire qu'on est juste un petit peu en arrière du monde des gadjés. On est toujours un peu décalé dans ce rapport d'une différence qui est maintenue, qui permet de se préserver, de préserver sa propre identité, mais qui en même temps nécessite quelque chose qui est absolument essentiel pour survivre, et c'est ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de tziganes, appelons ça comme ça si on veut, pour l'instant, d'une manière générale, qui ne vivent pas dans un monde environnant, qui est un univers de gadjé, c'est-à-dire un univers de gens qui ne sont des non-tziganes. Il n'existe pas de communauté tziganes autarcique, autonome, vivant, que sur elle-même, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître le monde des autres.
si on se prend si on passe du point de vue de Cigane. Il faut absolument connaître ce monde qui est celui avec lequel on est en relation en permanence, en relation économique, en relation linguistique. Il faut parler langue, il faut parler langue et des fois parler pour pas être compris, mais des fois il faut se faire comprendre. Il faut pouvoir effectivement y gagner sa vie, y trouver sa place, y trouver les moyens de négocier des espaces, comme actuellement, des espaces de stationnement, des espaces de sédentarisation, entre guillemets, des espaces d'installation, simplement de la manière dont on veut vivre. Donc, il faut être parfaitement au contact, en permanence, et en même temps s'en préserver. Donc, on est dans un système de tension, comme ça, permanente, pour à la fois maintenir son identité et maintenir son altérité et maintenir effectivement des ponts d'échange, parce que sinon il n'y a plus de vie. Alors ces ponts d'échange, ils sont évidemment économiques, je l'ai évoqué, ils peuvent prendre et ils prennent toujours des formes différentes, et juste comme ça, ça me donne l'occasion de dire ce par quoi je suis venu à m'intéresser et à côtoyer cet univers, ou du moins ces univers, parce que c'est une multiplicité d'univers, c'est que quand j'avais 22 ans, je faisais études de sociaux et d'ethno, j'étais comme tout étudiant d'ethnologie, je pensais pouvoir aller sur les traces de Lévi-Strauss en Amazonie ou sur celles de Jean Mallory auprès d'Inuit. Et je pensais pas que j'allais me retrouver simplement au bord de l'autoroute est de Marseille, entre la voie de chemin de fer et l'usine Nestlé, à découvrir un univers tout aussi étonnant. Et j'ai pris le premier boulot qui m'avait été proposé, qui était sur une aire de stationnement pour gens du voyage, la première qui se créait à Marseille en 77. Et donc, c'est là que j'ai découvert une part de cet univers-là, vraiment par hasard. Et puis j'ai rencontré des hommes, des femmes, certains avec qui on a eu des rapports très difficiles, d'autres qui sont devenus des copains, qui sont perdus, la plupart qui avaient été un peu plus âgés que moi, avec qui on allait à la Virta au bistrot, beaucoup sont morts et sont enterrés, certains à Arles. Mais j'ai découvert un autre univers, une autre manière de comprendre le monde, d'avoir un rapport au monde. Et comme j'étais un étudiant en cours d'études, je devais faire un mémoire de maîtrise, je m'occupais des problèmes de scolarisation d'enfants, donc évidemment, sagement, je prends un sujet, la scolarisation des enfants de Cigane, nomades, machin, bon, ça va très bien. Et puis, je discute avec les pères de famille, avec qui j'ai... les mères surtout, mais j'ai fait des entretiens enregistrés avec des Roms, avec les Hongrois, certains que considèrent comme des sauvages, vous en connaissez certains à Arles, qui me connaissant bien, etc., acceptent. Et puis, je dis, mais... Alors, ils me parlent de l'école, ils font les réponses ordinaires. Oui, oui, il faut que les enfants aillent à l'école. Oui, oui, il faut qu'ils apprennent à lire. Oui, oui, il faut qu'ils apprennent à compter. Tu parles à compter, ils savent compter. Quand ils gagnent au dé, de quoi manger, de quoi payer le repas de la cantine, ils savent compter. Mais là, c'est de m'en laisser compter justement par eux sur le discours toujours officiel sur... ils répondent ce qu'on attend comme réponse. Je leur dis, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard, ton fils ? Je disais ça au pauvre Yeko. Et il me dit, il m'a donné la clé, il m'a dit, il fera le métier de gitan. Ah, vous regardez à l'UNICEF, catalogue des emplois, un métier de gitan, vous ne trouvez pas. Donc là, j'ai commencé à me dire, ça, c'est commencé à être intéressant. Et effectivement, je lui dis, mais ça veut dire qu'il faut que tu lui apprennes le métier d'étameur, comme toi tu fais. Il me dit, mais ça, il sait déjà le faire, il le fait avec moi, avec son oncle, quand il a marché, etc. Mais de toute façon, ça sert à rien, je sais pas s'il sera étameur. Ah bon? Mais il dit, regarde, le bout de choulet, c'était son père, il était encore vivant. Le bout de choulet, lui, quand il gagnait des sous, il faisait de l'étamage, c'était après la guerre, en France. Il faisait encore de l'étamage dans les campagnes. il étamait les couverts en cuivre des paysans pour pas que l'oxyde de cuivre empoisonne. Et il dit, il gagnait vraiment le centime par centime. C'était, on donnait 3 couverts à étamer, et puis il fallait faire aller à la ferme suivante, 1,5 km, etc. Et il dit, et moi, maintenant, je fais plus ça, il y a l'aluminium, etc. Mais par contre, ils avaient les marchés de ce qu'on appelle les rondos, les grands plats de cuisine des collectivités, des cantines, etc. Et il m'a dit, tu vois, ça c'est Bartalo, c'est la chance. Ma génération, on travaille pour les gadgets, on travaille pour remettre en état les grands plats. À l'époque, je faisais les factures, en un week-end, il arrivait qu'il gagne 25 000 francs en 2 jours de travail. Il s'y mettait à 6 ou 8, mais c'était considérable. Mais c'était leur génération, ils avaient eu la chance. Il m'a dit, mais mon père, qu'est-ce qu'il m'aurait appris? De toute façon, ça n'existait pas ce monde-là quand lui a travaillé. Moi, je fais ça, je ne sais pas dans quel monde mon fils va vivre. C'est lui qui devra découvrir ce dont les gadgets ont besoin. C'est pas moi qui peux lui dire. Le métier de gitan, c'est ça. C'est savoir ce que le gadget que tu as à côté, que tu rencontres au bistrot, de quoi il a besoin. Sans oublier, mais ça fait partie des besoins.
Je vous remercie à tous les messieurs d'avoir coupé la parole à ce monsieur. Je vous demande 1000 fois pardon. Merci à vous tous. Merci à tous et à toutes. Pour nous, gitan, pour la communauté gitane, monsieur Dame. Merci.
Voilà, donc ça c'était pour dire que effectivement d'un seul coup, je me retrouve moi jeune en formation avec l'idée qu'il faut un diplôme, un parcours, etc. avec des gens en face qui me disent moi je sais pas dans quel univers mes enfants vont vivre et c'est à eux de le deviner. Et je me demande si des fois ils n'avaient pas une longueur d'avance sur nous. Quand on voit ce qui se passe pour nos enfants. Mais enfin bon, ça c'est une question qui est plus complexe. Donc tout ça pour dire que évoquer le fait de la complexité des réalités, parler des gitans justement dans une collection comme ça, comme les idées reçues. L'avantage c'est qu'on prend une question. Savoir lire les lignes de la main, aimer la musique. Bah oui, il y a des gitans musiciens. La musique, elle est aussi variée et les formes musicales que les groupes tziganes à travers l'Europe ou à travers le monde, puisque la présence tzigane est aussi répandue. En Amérique, sur les deux continents. Il se trouve que cet été, je suis invité par l'Association brésilienne d'anthropologie pour animer un groupe de travail, parce que j'avais invité un collègue brésilien et qu'ils relancent d'un seul coup, ils ont découvert là-bas la réalité de la présence tzigane, qui est aussi multiple que celle qu'on a en Europe, qui est aussi marquée de plein d'histoires, et que le président Lula a créé il y a 2 ans, comme pour toutes les autres minorités, une journée nationale des Ciganos. Et cette journée nationale des Ciganos, eh bien, elle donne la même chose qu'ici, lieu à des bagarres entre les associations de représentants, entre guillemets, de la communauté, alors des Calons, des Ritana, des Cigani, en disant non, nous on est les vrais, eux c'est les faux, etc. Et ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils ont des évangélistes, ils ont des catholiques qui veulent être en disant c'est nous les vrais. Ils en ont d'autres qui sont plus... Dans le culte vaudou, il y a, comme dans la pastorale des santons, il y a une gitane depuis plus d'un siècle et demi. Donc on a comme ça des traces culturelles variées et on est donc face à des réalités qui sont complexes. Et ça, c'est ce qui est vraiment passionnant. En même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a quand même une sorte de point commun, d'universalité de ce type de rapport dans les différentes sociétés. Vous allez au Portugal, vous allez en Roumanie, vous allez en, en France, vous allez à New York, vous n'allez pas trouver les mêmes gens, vous n'allez pas trouver les mêmes langues, vous n'allez pas trouver les mêmes mœurs, et pourtant vous avez un rapport comme ça, décalé par rapport à la société, et qui vont des fois se reconnaître des points communs, des fois pas. Pour la petite histoire, par exemple, pour savoir comment une communauté se transforme, les Roms de Paris, on parlait de Patrick Williams tout à l'heure, qui est un ethnologue, effectivement, qui a écrit un livre sur les Manouches. Nous, on n'en parle pas à propos du rapport aux morts, mais c'est aussi sur le mariage tzigane. Il est lui-même marié dans le milieu des Roms de Paris depuis 40 ans. Il a suivi une partie de... Il a retrouvé des cousins de sa famille. Ce sont des Roms qui sont partis de Roumanie à la fin de l'esclavage, dans les années 1850. Ils sont partis vers la Russie. En Russie, ils se sont alliés assez souvent. Ils ont rapidement fréquenté les milieux militaires et un certain nombre de femmes, et leurs femmes étaient particulièrement réputées pour être belles, etc., mariées à des officiers de l'armée du tsar, ce qui leur donnait un certain nombre d'avantages et de pouvoir circuler dans des trains pour faire de l'étamage, pour s'occuper des chevaux, etc., et faire des spectacles. Et puis, au moment des révolutions, ben, comme par hasard, assez souvent, les tziganes se déplacent, on dit, mais oui, mais des fois, ils se déplacent, c'est des déplacements forcés, c'est pas qu'ils ont envie, ils ont eu envie de quitter la Russie, mais une révolution 1905, plus de quoi manger, une révolution 1917, les guerres sont jamais des périodes favorables aux gitans ou aux tziganes, on l'a bien vu dans les conflits récents en Europe, ça déclenche des mouvements d'immigration, ils sont arrivés à Paris. À Paris, une partie de la communauté s'est sédentarisée, s'est installée à Montreuil, puis après, maintenant, dans l'Est parisien. Ils ont trouvé là, ils travaillaient les métaux, ils ont travaillé pour toutes les petites entreprises de métallurgie de la région parisienne, faire de l'aiguisage, etc., du travail de précision. Les hommes ont développé cette activité-là en circulant uniquement en couronne parisienne. Et les femmes ont arrêté de travailler. Mais une partie de la famille est partie à New York. Arrivée à New York, il n'y a pas du tout cette industrie de métallurgie. Les hommes n'avaient rien à faire. Les femmes, ben, elles se sont mises à faire les lignes de la main, mais les lignes de la main, c'est interdit. La divination est interdite dans la ville, dans l'État de New York. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert des officinas, des bureaux, c'est-à-dire des librairies ésotériques. Ils ne s'occupent pas, absolument pas des livres qu'ils achètent, ils mettent des livres. Les femmes, en fait, font de la divination, et les hommes disparaissent complètement, officiellement, et en fait négocient avec les services de police le maintien du commerce pendant un temps, et puis après on disparaît, après on réapparaît, etc. Donc, d'un côté... Vous avez la même famille où c'est les hommes qui travaillent au contact des gadgets, etc., officiellement en tant qu'artisans, et les femmes qui cessent de travailler. Et la même famille se trouve dans un autre contexte, et c'est l'inverse. C'est les femmes qui travaillent officiellement et les hommes qui agissent par derrière. Et puis, dernière étape, parce que c'est quand même trop beau, Patrick me dit un jour à Aix, ah ben j'ai retrouvé encore la trace d'autres cousins de New-Yorkais qui sont partis donc dans les années 50, ils sont partis au Brésil. Ils sont maintenant à Sao Paulo. À Sao Paulo, c'est les Roms, les Hongrois de chez nous, comme on dirait, et qui sont marchands de biens. C'est-à-dire qu'ils achètent des immeubles, ils repèrent des immeubles dans les quartiers qui vont être en rénovation. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils trouvent des gitans, mais pas des Roms, des Calons, des Calais, hein, pour eux des Espagnols, quoi. C'est-à-dire des pauvres. Et ils les font rentrer dans ces immeubles. Ils savent que ces familles vont pas s'y plaire, vont tout casser. Ils laissent faire, au contraire. Une fois que l'immeuble est bien dégradé, les propriétaires en ont marre, les Roms arrivent derrière, ils rachètent l'immeuble pour pas cher, ils expulsent. Donc, les Tziganes expulsent les Gitans, si on veut, pour parler simple, et ils rénovent et ils vendent à des bobos. Voilà une partie de... Autre petite situation particulière au Brésil, parce que là aussi, elle est très belle. Ce collègue Marco Melo qui m'invite, quand je l'avais fait venir, une rénovation urbaine à Rio de Janeiro. Le quartier central, la vieille ville de Rio, doit être traversée par une grande autoroute. Grande branle-bas de toutes les communautés, les Cap-Verdiens, les Argentins, les Brésiliens, les Portugais, etc. Chacun autour de leur église montre leur communauté. Il explique ça, c'est un sociologue urbain, donc il explique le mouvement de résistance populaire, etc. Et il me dit, tout le monde est d'accord, mais il glisse ça dans un séminaire qui n'avait rien à voir avec les Tziganes. Hein. Et il dit, sauf les Gitans qui sont mal vus. Pardon ? Évidemment, à la pause café, je l'attrape, on commence à discuter. Il me dit, oui, ils sont mal vus parce que les Gitans à Rio de Janeiro, ils sont huissiers de justice. Là, ça commence à être intéressant. Encore une situation nouvelle. Et effectivement, alors du coup, il a remis des étudiants, il a travaillé là-dessus. Il se trouve que à Rio de Janeiro, alors c'est une situation qui a disparu dans les années 80, mais c'est encore vrai dans les années 1970. Parmi les vagues, les différentes vagues d'immigration, parce qu'il y a des Tziganes au Brésil, il y en a depuis le premier bateau qui est arrivé au Brésil, qui ont été des expulsés. Et après, il y a eu toute une communauté de Tziganes qui sont arrivés avec l'empereur Juan II, celui qui était empereur du Portugal et du Brésil, qui voyant Bonaparte arriver aux portes du Portugal, a pris toute la cour et a déplacé sa capitale de Lisbonne à Rio. Et qui est-ce qui l'a emmené ? Ben, ces musiciens tziganes. Ces musiciens tziganes. Et ces musiciens tziganes, ben, ils se sont multipliés. Ils n'étaient pas tous musiciens à la cour. Donc, ils ont commencé à s'aimer dans la ville. Et on est aux alentours des années 1850-1860. Le Brésil est un pays encore esclavagiste. Mais il n'y a plus d'importation d'esclaves frais. Si je puis me permettre cette expression, c'est détestable. Et donc, l'esclavage existe, mais il n'y a plus de nouvelle main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans les familles bourgeoises ou nobles de Cariocas, de gens de Rio ? Eh bien, il faut se piquer les esclaves du voisin. Donc, qu'est-ce que font les Tziganes là ? D'un seul coup, ils deviennent maquignons d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils apprennent les langues africaines, ils prennent les interprètes et ils se spécialisent en disant, et ils négocient, disant, écoute, tu quittes la maison un tel, en échange de quoi tu auras trois chemises en plus, ta truc, etc., etc. Et ça devient un nouveau métier. Et on a de très belles images qui ont été publiées dans le numéro d'études tziganes que j'avais dirigé sur les maisons de tziganes au Brésil, où vous voyez des femmes, des romnias, avec en plus le dit clos, très belles, etc., avec leurs esclaves à côté, et le mari qui a son local à esclaves, etc. Évidemment, les bourgeois et autres aristocrates cariocas en ont marre de ce trafic, et vont faire une interdiction de ce métier de marchands, enfin de maquignons d'esclaves. Donc les Tziganes de Rio perdent leur emploi. Un juge plutôt inspiré, dans les années 1855-1857, on arrive très bien à le situer, on sait qui c'est. Un juge, à l'époque, c'est une charge, et c'est lui qui paye ses assistants, ses huissiers, etc. Et il lui faut quelqu'un qui connaisse la ville. Il n'y a pas de numérotation, il n'y a pas de papier, les gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc il faut quelqu'un, des gens qui connaissent la ville. Il a l'idée d'embaucher un tzigane. Il embauche un tzigane, plus il a une réputation un peu interlope, ça fait peur, comme huissier, c'est pas mal. La fonction donne un grand bâton, on va taper 3 fois sur la porte et on gueule l'arrêté de justice. Et de 1860 à 1970, on a les arbres généalogiques d'huissiers, de gitans, enfin de tziganes qui sont huissiers de justice. Dans les années 1970, là, les choses se corsent. Le Brésil commence à adopter des règles ordinaires, c'est-à-dire occidentales, de mise en place de la bureaucratie, et donc organise des concours pour être huissier de justice, un corps avec des recrutements, etc. Et là, ils disparaissent de ce circuit-là. Voilà. Donc c'est pour tout ça, c'était pour brosser un rapide tableau. Fait partie, vous donne un peu la manière dont j'essaye d'appréhender toutes ces réalités à partir des réalités de terrain très variées, à partir du travail que j'ai pu faire aussi sur les Saintes-Maries de la Mer, c'est pour ça que je parlais de ce bouquin, sur les rapports de Folco de Baroncelli avec les familles baptistes, avec la présence de familles gitanes ici. Mais de famille gitane, c'est très complexe parce qu'il y a des Manouches, il y a des Roms, enfin il y a des Hongrois. Ils sont pas arrivés au même moment, ils n'ont pas les mêmes implantations, ils n'ont pas les mêmes activités. Ils vont être concurrents, ils vont être alliés. Le monde change aussi. Les alliances, on en parlait tout à l'heure. Hein, les jeunes sont plus qu'ils étaient, c'est quand même dingue. Chez eux non plus. Il y a que les vieux qui sont toujours convaincus, qui sont toujours pareils. Donc on peut effectivement se poser beaucoup plus de questions, des questions anthropologiques très intéressantes, générales, des questions toujours, et c'est là où le travail d'ethnologue et le travail comparatiste est absolument essentiel, c'est que quand on veut faire un discours sur une catégorie, faire un que sais-je sur les tziganes en général, eh ben, on va se retrouver avec des choses dont on ne sait plus de quoi on parle. Quand on parle de terrain, quand on parle de réalité, un peu comme je vous les ai évoqués, de manière un peu très mosaïque, on a cet sentiment de mosaïque, mais en même temps, on a quand même des permanences. C'est-à-dire que l'image, par exemple, de la femme avec son bébé au sein, du rapport de la présence des enfants, de la hiérarchie des âges. Certains, on voit dans les groupes tziganes ou gitans, etc., une sorte d'idéal égalitaire d'une société pré-anarchique ou pré-anarchisante, etc. Ben, c'est oublier que les rapports hommes-femmes, qui sont pas des rapports simples, qui sont pas des rapports qu'il faut pas caricaturer, mais qu'il faut comprendre et qui sont complexes, mais qui sont loin d'être des rapports égalitaires, les rapports entre groupes d'âge, hein, entre les enfants, les adolescents, celui qui devient père de famille, celui qui devient grand-père, un papou, etc. Quelle est cette notion de respect dont on parle tout le temps, dont on ne comprend pas souvent le sens, dont on peut analyser de manière très fine ce que ça veut dire. Une dernière anecdote sur l'école, parce que vraiment, je la trouve trop belle. Une de mes étudiantes était à Toulouse, accompagnée à une instit pour les cours du soir. Alors, on est vraiment dans le contexte que c'est pour être ici, etc. Le cours d'accompagnement, aide à la scolarité des enfants. Alors, il y a un groupe d'enfants gitans. On dit c'est les enfants gitans. C'est la directrice de l'école qui les prend, avec mon étudiante Zélia. Déjà, Zélia, qui avait un petit peu de bouteille, un peu de terrain, etc., elle a bien repéré que ils étaient 8 ou 9. Il y en a un qui, visiblement, faisait pas partie tout à fait du même groupe familial. Effectivement, c'était un petit manouche, même s'il habitait dans la même cité, et les autres, c'était des Catalans. Et l'instit dit, alors vous placez comme ça, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. Les enfants, ils se placent comme ci, ils se placent comme ça. Pas comme du tout la directrice le dit. Zélia, qui était quand même formée par de bons profs, de bons enseignants, sait qu'elle pose pas de questions comme ça, et puis qu'elle regarde, et puis elle se met à côté d'une petite fille, et puis elle l'aide à faire quelque chose, etc. Puis elle lui dit, mais pourquoi tu t'es mis là? C'est mon oncle qui me l'a dit. Et c'est qui ton oncle? Tel garçon du même âge qu'elle, qui était en face. Et alors là, Zélia commence à regarder, à comprendre, à s'interroger. Et effectivement, c'était l'oncle. Et c'est lui qui surveillait la manière dont les uns et les autres se comportaient. Et un autre jour, l'instit s'énerve et commence à dire « Ah, mais c'est pas possible, vous allez obéir maintenant, ça va être comme ci, comme ça. » L'oncle, le tio, petit tio, qui se lève et qui dit « Dame, si on s'entend pas, nous on vient plus et toi tu manges plus. Allez expliquer à un inspecteur d'académie lambda que vous êtes devant une situation qui est une situation où l'école veut contrôler les familles, mais les familles veulent contrôler l'école. Et qu'on est dans quelque chose qui est assez intelligent et que, justement, ces gens-là, comme on dit, ont une très bonne connaissance de notre monde. Et qu'il y a une relation qui est toujours une relation dialectique qui va se prendre avec des relations d'amour et de haine. François Ier prend un édit en disant qu'il expulse tous les bohémiens. Dans la même année, il donne un laissez-passer lui-même de sa propre main à je me souviens plus comment il s'appelle, Jérôme Barœil ou je sais pas quoi, capitaine d'Égyptiens, hein, gitan, capitaine d'Égyptiens, dont les papiers sont parfaitement en règle. Il a fait état des bulles, de la bulle papale de 1425, donc on est en 1547, 125 est quand même un moment, qui condamne les Égyptiens à ne pas dormir dans un lit pendant 7 ans. Donc un siècle et demi plus tard, le grand conseil de François Ier dit que ces papiers sont tout à fait authentiques et garantit et demande aux villes et aux archevêques, comme un siècle et demi plus tôt, de leur réserver bon accueil pour qu'ils puissent aller de pèlerinage en pèlerinage. Et en même temps, il expulse tous les bohémiens. Mais en même temps, il en couvre certains. Alors on pourrait partir dans l'histoire, mais bon, ben chacun, on sait bien que les gitans, c'est une catastrophe, mais j'en connais au moins un de bien, d'ailleurs, il y en a un là. Voilà, bon, je crois que j'étais déjà un peu long, peut-être plutôt dialoguer à partir de cette mosaïque qui est peut-être pas celle auquel vous attendiez, mais bon, j'espère en tout cas.